sais pas si vous le voyez, mais c'est Benoît Bouscarel qui est en face dans ce studio pour le journal.
Bonsoir Arnaud, bonsoir Emmanuel et à toutes et à tous. La réforme des retraites, c'était hier et aujourd'hui la phase de concertation entre gouvernement et partenaires sociaux. Les sujets de discussion ont évidemment été très nombreux, reflétant les inquiétudes et les attentes syndicales dans la perspective de l'élaboration du texte qui sera présenté en Conseil des ministres dans quelques mois. Nous serons dans ce journal en direct de Matignon où nous attend Annabelle Grelier. Les passagers de la compagnie Aigle Azur, bloqués notamment au Mali et en Algérie dans l'attente d'un rapatriement, la compagnie est en redressement judiciaire, tous ses vols sont annulée. Elle est dans l'attente, cette compagnie, d'un repreneur qui pourrait être connu lundi. Explication d'Anne Lorchouin. Au Royaume-Uni, le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui la loi interdisant la sortie de l'Union européenne, le Brexit sans accord. L'enjeu maintenant de la bataille de Boris Johnson pour imposer ses vues, c'est l'organisation d'élections anticipées avant le 31 octobre si possible. Explication de Marie-Pierre Véraud depuis Londres. Et puis à la fin de ce journal, les craintes des familles de Claude Verlon et Ghislaine Dupont, journaliste à RFI assassinée au Mali en 2013. Elle s'interroge, ces familles, sur le rôle des services secrets français dans l'enquête. Ce sera le sujet de l'enquête d'Élodie Guéguin du service investigation de Radio France à la fin de ce journal. La réforme des retraites, disparition des régimes spéciaux, système universel à point. La concertation avec les partenaires sociaux s'achevait cet après-midi à Matignon avant la phase du débat public sur le futur texte attendu pour les prochains mois. Autour d'Édouard Philippe, la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye, ils ont reçu cet après-midi pour terminer ces concertations la CGT, la CFE-CGC et enfin la CGPME, des partenaires sociaux bien décidés à négocier jusqu'au bout. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Benoît.
En direct de Matignon, Philippe Martinez pour la CGT, c'était un peu lui le partenaire particulier aujourd'hui, celui qu'on attendait à la sortie de Matignon sans qu'il y ait en même temps trop à attendre de surprise quant à sa position sur la réforme.
L'expérience montre que si on ne secoue pas un peu le cocotier, on n'obtient rien. Et on ne le secoue pas assez fort, déclarait hier dans Libération Philippe Martinez. Alors a-t-il secoué en face à face avec Édouard Philippe ce fameux cocotier?
Je me garderais bien de considérer le Premier ministre comme un cocotier. Quand je me suis exprimé de la sorte, c'était une formule.
Une formule et un peu d'humour pour rappeler que la CGT a appelé à la grève le 20, 24 et 28 septembre prochain. Un appel à mobilisation en rafale, car la CGT ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la concertation à venir.
Je crois que le Premier ministre a une mission, c'est de changer le système de retraite solidaire que nous avons aujourd'hui pour un système par points. Et on avait peu d'illusions, mais en une heure d'entretien, nous n'avons pas réussi à le convaincre qu'il fallait abandonner le rapport de Levoix et nous écouter. Et donc c'est pour ça qu'on a bien fait très rapidement de dire aux citoyens, aux salariés, attention, il se prépare quelque chose de pendant et je crois qu'ils l'ont compris.
Le cocotier, c'est la CFE-CGC qui pourrait bien le secouer aussi. Très remonté sur la volte-face du président Macron sur la durée de cotisation plutôt que l'âge pivot, François Auméril, le président du syndicat des cadres, a été clair.
Pour nous, à la CFE-CGC, très clairement, s'il advenait que la question de la durée de cotisation revienne dans le débat et s'impose comme un paramètre structurant du régime à point futur, nous serions totalement en désaccord avec la proposition qui est faite. Pour nous, le rapport de Levoye, c'est un point de départ. Si on nous remet la durée de cotisation, là pour nous, tout est réduit à néant et nous ne sommes pas d'accord pour repartir d'une page blanche. Ça sort de question.
Quant au grand débat citoyen à venir, François Auméril est dubitatif. La CFE-CGC y est plutôt opposée, craignant, et le mot a été lâché, l'enfumage.
Merci beaucoup Annabelle Grelier, avec Marcos Darras et Julien Girard pour les moyens techniques depuis l'hôtel de Matignon. La suspension des vols est effective à partir de ce soir pour la compagnie Aigle Azur, toujours dans l'attente d'un repreneur d'ici à lundi. Désormais donc, les avions de la compagnie sont cloués au sol et des milliers de passagers sont bloqués en Algérie ou au Mali, contraints de s'organiser sans avoir droit au moindre remboursement de la compagnie pour ceux qui ont réservé directement, en tout cas auprès d'elle. Placée en redressement judiciaire, Aigle Azur est dans l'incapacité de dédommager quiconque. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir Benoît.
Au-delà du problème du rapatriement des passagers bloqués qui va s'organiser tant bien que mal dans le courant du week-end, la question maintenant est de savoir quelle compagnie repreneuse peut assurer le service sur les créneaux occupés jusqu'à maintenant par Aigle Azur, qui sont des créneaux, on le voit, importants.
Oui, c'est surtout la quantité de ces créneaux détenus par Aigle Azur qui est importante, 9800 en l'occurrence. Ces créneaux correspondent à des heures et des dates de décollage et d'atterrissage. Ils ne se monnayent pas précisément. précisons-le, ils sont alloués par la puissance publique. Ces créneaux, occupés donc jusqu'alors par Aigle Azur et qui représentent l'équivalent de 13 vols quotidiens depuis Orly, sont donc son principal atout, un atout qui intéresse en premier lieu Air France. En reprenant ces créneaux, elle empêcherait la concurrence d'y accéder. L'État français, lui non plus, n'a pas intérêt à voir ces créneaux tomber aux mains d'un concurrent potentiellement dangereux pour la compagnie française. D'où cette question. Est-ce que c'est Air France qui a fait l'offre principale sur laquelle travaille le gouvernement, qu'évoquait en milieu de journée Bruno Le Maire? Là-dessus, la compagnie se refuse à tout commentaire. Certains analystes du secteur pensent qu'Air France ne montera au créneau, pour reprendre Aigle Azur, que si un autre acteur se montre, lui aussi réellement intéressé. Mais reprendre Aigle Azur, c'est aussi reprendre sa dette, qui est importante. Air France peut donc aussi laisser pourrir la situation, attendre qu'une liquidation soit prononcée, que l'État redistribue lui-même les créneaux horaires ainsi libérés. Elle y aurait ainsi accès sans dépenser trop d'argent.
Explication d'Anne Lorchouin. Le parquet de Paris fait appel de la décision rendue hier par les juges d'instruction dans le dossier du crash du Rio Paris le 1er juin 2009. Ils avaient pris, ces juges, une ordonnance de non-lieu pour le constructeur Airbus et la compagnie Air France. Le parquet de Paris, dans ses réquisitions en juillet dernier, avait lui demandé le renvoi d'Air France. À Corbeil-Essonne, l'affaire des votes achetés et de la dérive clientéliste généralisée soupçonnée par la justice, elle donnera bien lieu à un procès. Plus de 6 ans après le début des investigations sur des soupçons d'achat de votes à Corbeil-Essonne, 7 personnes, dont l'actuel maire Jean-Pierre Bechter, successeur de Serge Dassault, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Florence Turm.
Lorsqu'on évoque le dossier des achats de votes à Corbeil-Essonne, on pense tout de suite à la figure emblématique de Serge Dassault, l'ancien maire de la ville mis en examen dans cette affaire et décédé l'an passé. L'action publique à son encontre est donc éteinte, mais il y aura malgré tout un procès avec 7 personnes dans le box des prévenus, notamment l'actuel maire de la ville, Jean-Pierre Bechter, le dauphin de Serge Dassault, qui lui avait succédé. La réélection de l'industriel en 2008 ayant été invalidée précisément pour achat de votes et financement illégal de campagne électorale. Le milliardaire, troisième fortune de France, a toujours nié avoir distribué des fonds, financé divers projets pour influencer le vote de ses concitoyens, mais le parquet et le juge d'instruction estiment que le système a perduré une fois Jean-Pierre Bechter en place à la mairie, avec des techniques de plus en plus sophistiquées pour les campagnes électorales de 2009 et 2010. L'enquête a mis au jour des remises d'espèces provenant de comptes occultes ouverts à l'étranger et des allers-retours suspects sur des comptes détenus par des prête-noms. 2 anciens adjoints de Corbeil-Essonne seront également jugés pour complicité, de même qu'un comptable suisse proche de l'avionneur qui a reconnu avoir rapatrié plus de 50 millions d'euros en liquide et 3 autres hommes soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires.
Florence Sturm. Orange et Altice sont finalement parvenus à un accord pour la diffusion de l'ensemble des chaînes du groupe de Patrick Drahi, dont BFM TV. Les diffusions ont été suspendues depuis un peu plus de 24 heures sur les box internet de l'opérateur. Elle reprend donc en ce moment la diffusion, du moins pour le signal linéaire en temps réel des chaînes à l'exclusion des services de visionnage en différé. La diffusion sur les équipements de Free du groupe Iliad, elle, n'a toujours pas repris. Pour les chaînes du groupe Altis, les négociations sont au point mort. 4 mois après les élections européennes, Nicolas Dupont-Aignan tente d'oublier le score très bas réalisé par sa liste, 3,5% des suffrages. Après l'université de rentrée la semaine dernière dans son fief de hier dans l'Essonne, le président de Debout la France tente de se relancer. Il vient de nommer 4 nouveaux vice-présidents et surtout d'affirmer son retour sur une ligne gaulliste sociale, une ligne qu'il avait laissée de côté au moment de la présidentielle de 2017. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Du service politique de France Culture. Un nouveau départ donc pour Nicolas Dupont-Aignan, en tout cas espéré, ça s'annonce quand même assez délicat.
Oui, hier c'est Patrick Mignon, ex-vice-président de Debout la France, qui a envoyé sa lettre de démission dénonçant pêle-mêle l'égocentrisme de Nicolas Dupont-Aignan et les errements stratégiques du parti. Il était le dernier membre du bureau exécutif après la démission de Frédéric Mortier, le secrétaire général du mouvement après les européennes. Des démissions qui font partie de la vie politique, relativise Nicolas Dupont-Aignan, qui revendique ses 10 000 militants et rappelle le ralliement de la sénatrice du Var, ex-FN, Claudine Kaufmann, ou encore de l'ex-députée Marie-Jo Zimmermann, missionnée actuellement à l'Observatoire de la laïcité. Donc non, affirme-t-il, il n'y a pas plus de fuite que ça.
Disons que certains ont cru que parce que je faisais barrage à Emmanuel Macron et que je soutenais Marine Le Pen, et je ne renie en rien ce choix, on devait devenir comme le Rassemblement National, et devenir un Rassemblement National en miniature. Et ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que j'avais dit, et je ne l'accepte pas. Et donc, j'ai procédé à certaines Renouvellement, c'est-à-dire que j'ai demandé aux gens qui estimaient qu'on devait devenir la copie du Rassemblement National, de s'en aller ou de changer.
Tout est donc en redéfinition actuellement, aux côtés de Benjamin Cauchy, ex-gilet jaune, désormais fidèle à Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan cherche un deuxième porte-parole. La semaine prochaine, il désignera aussi deux autres vice-présidents, ce qui portera à 6 la garde rapprochée. Le député promet aussi un congrès ces prochains mois, ce qui laisse dubitatif un ancien allié parti au Rassemblement National. Ça implose, assure-t-il, preuve en est. Les vice-présidents ont été nommés alors qu'ils étaient élus auparavant. Tous les jours, des militants viennent chez nous, ajoute-t-il.
Merci beaucoup, Anne Fauquemberg. La Chambre des Lords britanniques a adopté définitivement cet après-midi le texte de loi visant à bloquer une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. C'était attendu, mais ça n'en est pas moins un nouveau revers pour le Premier ministre. En retour, Boris Johnson a obtenu un répit judiciaire. La Haute Cour de justice à Londres a rejeté aujourd'hui une demande d'annulation de la suspension du Parlement. Engagé dans un bras de fer tous azimuts, Boris Johnson, qui a perdu cette semaine sa majorité au Parlement, mise maintenant sur des législatives anticipées pour trouver un nouveau souffle. Toute la question est de savoir s'il pourra imposer ces élections et à une date qui lui convienne. Marie-Pierre Véro est à Londres.
Normalement, rien ne devrait s'opposer à ce que Boris Johnson obtienne ces élections anticipées qu'il appelle à corps et à cri. Pour accepter de revenir devant les électeurs, l'opposition exigeait d'écarter tout risque de sortie brutale de l'Union européenne le 31 octobre. Or, ce devrait être chose faite lundi. La loi qui exclut un no deal et prévoit un éventuel report du Brexit au 31 janvier sera en effet présentée à la reine après le feu vert donné par la Chambre des Lords. Mais les travaillistes ont pourtant annoncé qu'ils ne voteront pas la motion de Boris Johnson appelant à un scrutin le 15 octobre. Le Premier ministre devrait donc essuyer un nouvel échec, c'est mathématique, puisqu'il lui faudrait recueillir 2/3 des suffrages au Parlement. Il a eu beau jeu de dire depuis l'Écosse où il est en visite aujourd'hui, le Premier ministre, sa perplexité devant la dérobade de la seule opposition au monde qui refuse un scrutin anticipé. Mais en fait, les parlementaires ne lui font plus confiance. Ils préféreraient sécuriser d'abord un report du Brexit, donc repousser la date du scrutin. Car ils redoutent qu'une fois la Chambre dissoute, eh bien, Boris Johnson ne parvienne à manœuvrer pour sortir malgré tout son pays de l'Union, avec ou sans accord, au 31 octobre. Il l'a encore dit hier dans un style très personnel, plutôt crever dans un fossé que demander un report. Alors, que lui reste-t-il pour obtenir ces élections? Eh bien, dans le cas extrême, le Premier ministre pourrait demander un vote de défiance contre lui-même et espérer que le Parlement ne parvienne pas à s'entendre pour former un gouvernement alternatif. La figure du leader d'opposition, Corbyn, est en effet presque aussi clivante que la sienne. Mais quand on en est à imaginer qu'un gouvernement se saborde de son plein gré pour espérer renaître, cela montre à quel point le Brexit nous fait nager en plein surréalisme.
Marie-Pierre Véro à Londres. 9 ans et 8 mois de prison en Turquie pour la chef de la section d'Istanbul du Parti Républicain du Peuple, première force de l'opposition parlementaire, Kanan Kaftancioglu, a été condamnée pour insulte au président et diffusion de propagande terroriste. Elle a surtout joué un rôle important dans la conquête par son parti de la municipalité d'Istanbul. Elle est pour l'instant laissée en liberté dans l'attente de l'appel. Au Bahamas, le bilan humain s'annonce épouvantable d'après les autorités sur place, même si les conséquences du passage de l'ouragan Dorian ne sont pas encore chiffrables sur le plan économique, sanitaire et touristique. Pour l'instant, c'est dans le chaos que la confusion que les secours tentent de s'organiser. Les équipes d'évaluation technique doivent tenter aujourd'hui de se rendre à Grand Bahama, une des îles les plus touchées au nord de l'archipel. Des centaines de personnes attendent d'en être évacuées. La mort de Robert Mugabe à l'âge de 95 ans, on l'a appris tôt ce matin. L'ancien président zimbabwéen est décédé presque 2 ans après s'être fait chasser du pouvoir par son ancien bras droit, Emmerson Mnangagwa. Celui qui est vu comme le libérateur du Zimbabwe, en tout cas c'était le cas dans les années 80, a ensuite été considéré par beaucoup de ses compatriotes comme un oppresseur. Il a souvent usé de la violence et a fait plonger son pays dans une très profonde crise économique pendant les 37 ans de sa présidence. Environ 2 millions de Zimbabwéens ont fui vers l'Afrique du Sud. Noé Ochebodin est allé recueillir leurs premières impressions à Johannesburg. Reportage.
Billy avait beau être diplômé en psychologie au Zimbabwe, il se retrouve à vendre à la sauvette des jouets dans les rues de Johannesburg. Selon lui, tout ça c'est à cause d'un homme en particulier, Robert Mugabe.
cause
de lui. On est là à cause de lui, donc on ne verse aucune larme aujourd'hui. Je le considère comme un homme qui était bon au début et après, il est devenu corrompu. Le pays a sombré à cause de lui.
Takunda était aussi un ingénieur qualifié dans son pays d'origine, mais a dû fuir à cause de la crise économique.
Mugabe nous a amené d'une oppression coloniale vers son oppression à lui. Il ne nous a rien donné. C'est comme s'il avait dit, c'est mal de souffrir sous cet ancien gouvernement, mais vous pouvez souffrir sous le mien.
Alors Mugabe, tour à tour ancien chouchou, puis pire ennemi de l'Occident, a-t-il un si mauvais bilan? Non, selon Dombisizé, 22 ans.
Je suis assez triste. Il était meilleur que le président actuel, bien meilleur. La chose que j'aimais chez lui, c'est l'éducation qu'il a donnée au pays. L'éducation, c'était la clé selon lui.
Alors Mugabe, héros de la libération ou dictateur, même après sa mort, cette question ne sera toujours pas tranchée.
Noé Hochet-Baudin. 18h16 sur France Culture. La France cache-t-elle des informations? Secret défense sur la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. 6 ans maintenant après l'enlèvement et l'assassinat à Kidal au Mali des 2 journalistes de RFI, leurs journalistes et leur famille et leurs proches estiment que l'enquête judiciaire comporte beaucoup trop de zones d'ombre. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir.
Du service investigation de Radio France, famille et proches des 2 journalistes s'interrogent surtout sur le rôle des services secrets français.
Oui, ils se demandent notamment si les services de renseignement ne cherchent pas à couvrir une erreur d'appréciation qu'ils auraient pu commettre. Peu de temps avant ce drame, la DGSE a approché un ancien djihadiste à Kidal du nom de Bayak Bakabo. Il est aujourd'hui le principal suspect dans le rapt des Français. Or, un procès verbal auquel nous avons eu accès montre que cet homme a été auditionné, débriefé, comme on dit, par la DGSE. Nous avons fait lire un extrait de ce PV.
Nous avons demandé à Bayak Bakabo de venir parler avec les forces françaises en lien avec l'officier traitant de la DGSE. Lors de l'audition, il a déclaré qu'il avait suivi 6 mois d'entraînement à l'armement léger et au combat lors de son entrée dans le mouvement djihadiste. Nous lui avons demandé si une deuxième entrevue était envisageable. Il a accepté.
Alors ce rapport, il confirme donc que le principal suspect était en contact avec les services secrets. Et on peut même se demander, Benoît, s'il n'était pas une de leurs sources d'informations. Je précise qu'il n'a jamais été arrêté.
Alors ça veut dire, Élodie, très clairement, que les services français recrutent ce qu'on appelle des sources parmi les combattants au Mali.
Oui, ils l'ont beaucoup fait lorsque la France est intervenue militairement au Sahel. C'était alors une nécessité, explique le journaliste spécialiste de l'Afrique, Thomas Hoffnung.
Quand les Français arrivent sur place, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'informateurs. Parce que donc on cherche à remettre la main sur les otages français qui restent aux mains des groupes djihadistes à cette époque.
Donc ces preneurs d'otages ont pu être quelques mois auparavant des sources.
Exactement, mais ça c'est difficile à assumer. Un État ne peut pas, je pense, assumer publiquement que cet enlèvement et cette exécution ont été conduites par des gens qui à un moment donné ont pu être perçus comme pouvant aider la France dans la région.
Alors voilà une première zone d'ombre, mais les familles des victimes ont l'impression qu'on leur cache autre chose en raison du secret défense.
Oui, et ce sentiment, il est né d'une confidence que leur aurait faite François Hollande. Les grandes oreilles auraient en effet capté une conversation téléphonique entre l'un des ravisseurs des journalistes et un donneur d'ordre lié au groupe ACMI. Et l'ancien président Hollande aurait évoqué cela devant la fille de Claude Verlon, Apolline.
C'est François Hollande qui nous parle de cette interception téléphonique entre X et Y, où au milieu on vous parle de votre père qui était de la marchandise et qui a été assassiné. On a abîmé la marchandise. François Hollande dit devant ma tante, devant ma mère, devant mon compagnon, devant la mère de Ghislaine, il tient ce discours et là on se regarde tous en disant bah alors, il faudrait porter au dossier, en fait.
Mais cette information, elle n'a jamais été portée au dossier. Et lorsque François Hollande a été entendu par les juges au mois de janvier, il a contesté avoir parlé de cette écoute. Une attitude qui déçoit les familles. Elles ont l'impression que dans cette affaire, le secret défense l'emportera sur la vérité judiciaire.
Merci Élodie Guéguin. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Un trésor qui refait surface pour refermer ce journal. La plus ancienne presse station connue de Miles Davis à la télévision vient d'être retrouvée par l'Institut National de l'Audiovisuel. La séquence de presque 4 minutes est diffusée depuis quelques heures par l'INA sur son site internet. En y voit sur cette séquence dans un décor lunaire signé de la radio-télévision française à l'époque, Miles Davis, alors âgé de 31 ans, entouré d'un contrebassiste, d'un batteur, d'un saxophone ténor et d'un pianiste. Séquence datée du 7 décembre 1957, tournée au studio des Buttes-Chaumont de la RTF. De la pluie sur le quart nord-est du pays demain, surtout le matin, l'après-midi, ces pluies se transformeront en averses passagères. Plus à l'ouest, le temps sera variable et le vent faible, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, température minimale entre 9 et 12 degrés jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée.